Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits, le jour. Alban Penaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassan Mbechour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant le programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à Salvador Dali, à l'occasion des 120 ans de sa naissance et des 50 ans de son théâtre-musée de Figueras, nous écouterons quelques extraits de chansons d'interprètes les plus divers, à propos desquels Dali était interrogé en 1969. Et tout de suite, la première des 10 clés pour un théâtre-musée, une série proposée par Daniel Lecomte à partir de ses entretiens avec Dali, réalisés peu de temps après l'ouverture du musée en 1974.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1974, était inauguré à Figueras, sa ville natale, le théâtre-musée Dali. Un musée que Dali avait lui-même intégralement imaginé et réalisé sur ce qui restait du théâtre municipal de Figueras, détruit dans les derniers temps de la guerre d'Espagne. Situé à deux pas de l'église où il fut baptisé, ce lieu, qui devint son tombeau immédiatement après sa mort en 1989, couvre tout le parcours artistique de Salvador Dali et abrite une grande partie de ses œuvres, sans compter celles qu'il réalisa spécialement pour lui. Alors qu'il travaillait encore à l'évolution de son théâtre-musée, Daniel Lecomte rencontrait Salvador Dali pour la réalisation d'un portrait radiophonique qui fut diffusé dans les Nuits Magnétiques, 4 ans après l'inauguration du musée, sous la forme d'une série de 10 émissions, dont nous allons écouter la première. Y intervenaient l'écrivain Henri-François Rey et le peintre, proche de Dali, Anthony Pichot. Nuit magnétique, clé pour un théâtre-musée, premier des 10 épisodes, chair de poule inaugurale, première diffusion le 6 novembre 1978 sur France Culture.
Dali, clé pour un théâtre-musée, par Daniel Lecomte.
Pour avoir mangé trop de chocolat à la télévision, pour avoir inondé les grandes surfaces de ses gravures imparfaites, pour avoir regretté que Franco, de son vivant, n'ait pas fusillé plus d'opposants politiques, Salvador Dali a terni au cours de ces 10 dernières années l'image éblouissante de lui-même qu'il avait imposée au public. Cependant, il vient d'inaugurer à Figueras, petite ville de Catalogne, près de la frontière française, un théâtre-musée qui ne peut laisser indifférent. D'ailleurs, amateurs et curieux s'y précipitent. Mais on peut se demander pourquoi un peintre aussi célèbre a choisi d'installer son musée dans une ville aussi retirée. Est-ce à cause de la proximité de Cadaqués où il vit? Est-ce parce que c'est la ville où il est né? Est-ce parce que le gouvernement espagnol ne lui proposait pas d'autre endroit?
C'est tout à fait le contraire. On m'avait proposé de faire le musée à Barcelone. Et moi, subitement, j'ai dit, j'en ai un red man. Vous savez, Marcel Duchamp, il faisait les objets qui n'avaient que les signer, existaient en tant qu'œuvre artistique. Et alors, ils ont dit, mais où vous le voulez? Je dis, à Figueras, exactement dans les ruines du théâtre principal. C'est-à-dire, il est tombé une bombe et le musée a été instantanément produit.
C'est donc dans l'ancien théâtre?
Dans l'ancien théâtre et il est instantané. Aussitôt j'ai vu l'endroit, je me suis souvenu de l'endroit. On a été là-bas, c'était une immondice, il y avait que des tziganes qui vivaient, et des résidus de caca de chèvre, et des chiens et de toutes sortes. Et là, c'est ce qui est maintenant le théâtre musée à Figueras. D'ailleurs, je profite d'une petite anecdote parce que j'ai eu dans ma vie beaucoup d'images instantanées comme ça. Une fois à l'Institut Rockefeller avec Alexis Carrel, il y avait une assiette avec un liquide, une espèce de plastique, je ne sais pas, un gelé, quelque chose qui servait pour des expériences scientifiques. Et quelqu'un a mis au centre, sans vouloir, pour éteindre sa cigarette. Et soudainement, toute l'assiette était remplie de cloques qui se sont solidifiées, mais d'une beauté étonnante. Je dis, est-ce que si on faisait un lac immense et on faisait tomber une bombe suffisamment puissante, il pourrait produire ces mêmes cloques? Il dit, exactement, on pourrait le calculer. Alors je vais chez des gens du monde, je viens dans mon côté et je lui explique, je dis, je viens de découvrir une ville instantanée en jetant une bombe. Alors je lui explique le centre, il y a les grands bâtiments de type plus ou moins monumental, des cloques, toujours des cloques plus ou moins monumentales, et dans la périphérie, il y a les quartiers oubliés, aussi délicatement pensés que ceux de Ledoux. Et cette dame, il dit, mais vous ne croyez pas que si toute la ville est des demi-sphères, ça va être un peu monotone. Bon, j'écoutais madame, si ça ne vous plaît pas, on jette une autre bombe et on détruit tout.
Quand vous avez choisi Figueras, c'est un retour à vos origines. Vous aviez besoin de Figueras parce que ça aurait pu être Barcelone, vous m'avez dit, ça aurait pu être Madrid, ça aurait pu être la capitale aussi.
C'était totalement irrationnel. J'ai vu instantanément les ruines du théâtre, et je dis, c'est là.
Oui. Je l'ai vu. Et le fait que ce soit des ruines ne vous paraissait pas paralysant, au contraire?
Au contraire, est stimulant. Dali, comme il est proverbialement su, il est un être éminemment théâtral. Toute ma vie, ce n'est que du théâtre. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu que ça continue à s'appeler Théâtre Musée Dali, parce que je pense projeter, et même cinéma, pour le même prix, puisque je pense projeter ma toute première œuvre filmée qui s'appelle Impression de la Haute-Mongolie et probablement aussi dans 2 ans, quand j'aurai fini et trouvé les acteurs, je vais faire représenter à Figueras la première tragédie que j'écris dans ma vie, dans le style de Corneille, avec beaucoup d'alexandrins.
Mais je croyais que vous n'aimiez pas le cinéma.
C'est exact. Il y a beaucoup trop de moyens, il y a trop de moyens, c'est-à-dire on peut passer de Paris à Londres, on peut descendre dans un sous-marin, on peut aller en hélicoptère. Donc, c'est comme un piano qui aurait des kilomètres de clavier. On ne peut arriver à la perfection que par des choses strictement limité et réduite. Mais mon film est évidemment pas comme les autres. Une compagnie de cinéma allemande a venu me proposer de faire un film. Je dis oui, mais il faut que ce soit exactement comme je veux. Nous sommes à vos ordres. Très bien. Alors voilà cette plume en bolligraphe que j'avais trouvé dans les pissotières de l'hôtel Saint-Régis. C'est l'acide urique a produit des taches presque microscopiques, mais d'une beauté que j'ai jamais vu des taches pareilles. Ça peut être des dragons, ça peut être des paysages, tout ce qu'on veut. Et en les faisant tourner lentement, chaque nuit, avant de m'endormir, je provoque des hallucinations avec ces petites taches. Assurer 50 000 dollars, ce petit trésor de plumes, et vous le faites tourner avec des spécialistes comme vous avez pour les microfilms. On me l'a rendu et je n'ai fait que dire ce que je vois. Et ce que je vois, le voit tout le monde. Et il n'y a rien de vrai. C'est-à-dire, c'est la provocation totale.
On a l'habitude de dire en français, de parler d'une représentation théâtrale et aussi d'une représentation en peinture. Pour vous, est-ce que le mot a la même signification dans les deux cas?
Dans le cas de mon musée, oui, parce que c'est un musée théâtral et toutes les choses, on les met pas par des critères bureaucratiques, artistiques, ni chronologiques, mais par des effets théâtraux. C'est une tragédie dans laquelle je respecte tout. L'unité de lieu, l'unité de temps, avec tout. Alors ça, oui, évidemment, ça se lève le rideau. Et tout dépend de ce qu'ils vont dire trois personnages. Alors là, on peut arriver à des choses.
Alors, en fait, vous avez toujours été fasciné par l'œuvre classique, le classicisme. Vous avez même comparé, je crois, les difficultés du classicisme à celles que peuvent éprouver, par exemple, les agates qui passent comme ça par des filières minces pour s'épanouir, après ça, de façon plus belle.
Oui, c'est-à-dire les agates contre l'opinion de tout le monde, c'est des éléments colloïdaux emprisonnés dans des éléments calcaires et se faufilant à travers les dépressions du calcaire, il finit de faire ce qu'on appelle les agates arborescentes qui ont l'air de la chose la plus fragile et la plus libre. Et ce n'est qu'un produit exact d'inquisition.
C'est donc à travers les contraintes qu'elles ont pu s'épanouir.
Exactement.
De la même façon, l'art classique.
Et de la même façon, mon musée.
Voilà.
Parce que je me le suis trouvé fait, et alors au lieu de que ce soit une succession de chambres où on accroche des tableaux, l'œuvre d'art, c'est le musée lui-même.
C'est donc une espèce de mouvement intellectuel constant, vous voulez.
Constant. C'est-à-dire que c'est un musée que jamais il va être totalement fini. Et il va être en constante métamorphose et transformation. Le docteur m'avait dit, après mon opération, que je travaille, mais pas en excès. Et moi, j'ai entrepris rien d'autre que de faire une espèce de chapelle Sixtine de Michel-Ange. J'ai fait des ébauches très rapides. Si ça ne me plaît pas là où ils sont, je les change la semaine qui vient. Et un jour, ça aboutira à quelque chose de, en tout cas, hallucinant.
Mais, de toute façon, se métamorphosant.
Ah, constamment. On pourrait dire que c'était l'éternel provisoire.
Mais, alors, vous vous voyez vivre au moins jusqu'à l'âge de Titien, alors, pour transformer ce musée comme ça, constamment.
Ah non, en une semaine, je peux tout chambarder.
Donc c'est un changement à vue, comme on dit au théâtre.
C'est ça. Je suis surtout un désorganisateur, et c'est à base de désorganisation qu'on est arrivé à faire ce musée.
C'est ça.
C'est-à-dire à base de happenings. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour qu'il soit la même chose.
Cela explique en partie le succès que le théâtre-musée a remporté auprès des habitants de Figueras eux-mêmes. Ce n'était pas gagné d'avance, comme en témoigne Antonio Pichot, peintre catalan de Cadaqués.
C'était difficile de convaincre et d'avoir l'admiration de tout le peuple de Figueras comme il a aujourd'hui déjà dans son musée, hein, parce qu'ils sont assez compliqués, les gens de Figueras. Nous sommes assez compliqués.
Donc finalement, ils se reconnaissent en lui maintenant.
Ah oui. Maintenant, ils sont tous en admiration et tout le monde garde un intérêt formidable. Même ils visitent plusieurs fois son musée, que ça c'est une chose incroyable, en considérant qu'ils payent 60 pesetas à l'entrée.
Séduire ses compatriotes, être prophète dans son propre pays, était certainement pour Dali un pari intéressant. Il est vrai que pour le gagner, il avait l'avantage de bien connaître le penchant des Catalans pour le baroque et les ornementations chargées.
En catalan, embolique que fa fort. Embrouille les choses parce qu'elles deviennent plus fortes.
Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'elles s'entrenourrissent, si on peut dire.
S'entrenouent et deviennent plus fortes. L'amalgame est beaucoup plus fort.
Et vous savez qu'on entend murmurer « Ah, s'il y avait un catalogue !» Les gens cherchent un fil conducteur.
Oui. Mais pour le moment, nous sommes dans un labyrinthe.
Mm-hmm. Volontairement modifié.
C'est ça.
Alors vraiment, même si on a trouvé un fil, il est toujours embrouillé.
Cassé. C'est la chose de Mallarmé, quand il avait fait un sonnet, il l'a fait relire à un ami, Il a dit, est-ce que c'est clair? Il dit, c'est limpide, comme on dit. Alors, c'est pas fini, je dois le reprendre parce qu'il faut que j'y ajoute de l'obscurité.
Pour atteindre à cette obscurité poétique, Dali a accumulé une série d'objets disparates propres à donner la chair de poule à tout esprit féru de classicisme. Loyalement, il annonce d'avance ses intentions en ornant la façade du théâtre de pleureuses drapées de noir qui portent sur la tête un pain bâtard doré. Au milieu du cortège, un scaphandrier semble arrêté, prisonnier de son harnachement. Derrière son hublot, il a les yeux dardés vers les baguettes de pain et les femmes, qu'il ne pourra jamais que dévorer du regard. L'œil des visiteurs sera soumis lui aussi à toute une série d'épreuves de dévoration organisée. Il devra ingurgiter à la fois un moulage écrasant du Moïse de Michel-Ange, un cosy corner de Gaudi sur lequel Dali a peint un paysage catalan, le squelette doré d'un chimpanzé, une salle de bain suspendue au plafond, la tête d'un rhinocéros, le buste de Freud et celui de Velázquez orné de peintures diverses. C'est de cette façon que Dali cherche, d'entrée de jeu, à faire pénétrer le public dans une sorte d'obscurité malarméenne.
Tomate. Je vais mettre des policiers qui auront une tomate sur la tête éclairée. On devra très bien rouge. Et je mettrai tout le musée absolument dans l'obscurité. Et chacun qui rentre aura une lampe lot et pourra découvrir les détails avec sa propre lumière. Et plus garder que n'importe où, parce qu'on verra toujours les tomates allumées qui vous surveillent.
On ne pourra pas s'égarer.
Mais c'est merveilleux de découvrir soi-même avec une lampe chaque détail, chaque tableau.
Mais alors, justement, dans cette mise en place, même avec cette idée-là, est-ce qu'il ne s'agit pas, au fond, d'une célébration, c'est-à-dire la question...
Une fête. C'est ça.
Mais alors,
c'est destiné à des fêtes, d'ailleurs. Le musée est destiné à donner des fêtes.
Oui. Mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas penser que chez vous, il y a une préoccupation qui est une préoccupation mystique, au fond?
Il y a une préoccupation surtout de queue. Je veux que les gens fassent la queue pour y rentrer, et qu'en sortant, ils aient envie de vomir.
Oui.
De tellement de choses qu'ils ont vues, contradictoires, tout ça, qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils aient envie vraiment de dégobiller tout ce qu'ils ont vu.
Dans ces conditions, s'agit-il d'un musée ou d'un labyrinthe où l'esprit s'égare? Henri-François Rey, qui habite Cadaqués, nous répond.
Il y a chez lui une dérision du musée. D'abord, il l'explique, il me l'a expliqué, il l'a expliqué à beaucoup de gens. Il est contre l'idée de musée. Bon, il a été obligé de composer avec les gens qui ont donné l'argent. Les gens qui ont donné l'argent, c'est l'État espagnol, c'est la Diputación, c'est-à-dire l'équivalent du Conseil Général, c'est la municipalité de Figueras. Et sur le plan culturel, pour eux, un musée, c'est un musée. C'est-à-dire, c'est un endroit où on met des toiles en prison, des statues en prison. Il a lutté beaucoup, ça j'ai été témoin, il a lutté beaucoup contre cette idée de musée et il a réussi à avoir cette idée de musée de théâtre. Mais enfin, il n'a pas réussi à faire exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire un anti-musée.
Oui, mais c'était pas Luna Park quand même qui visait.
Oh, il y a beaucoup de Disneyland chez Dali. C'est peut-être pas si mal dans la contre-culture. La Cadillac au milieu de ce qui était le parterre du théâtre, parce que moi j'ai connu ça comme un théâtre en ruine, c'est un théâtre qui avait été brûlé pendant la guerre civile. C'est un peu Disneyland, enfin. Et à l'intérieur, ce système de douche qui arrose je ne sais plus qui.
Oui, c'est l'intérieur du Cadillac, c'est ça.
Oui. Bon, ça, c'est un peu Disneyland.
Pourtant, la Cadillac n'est pas un simple élément supplémentaire dans le conglomérat d'objets réunis au Théâtre-Musée de Figueras. Elle est à la fois souvenir de la vie d'Ali et citation de son œuvre.
La Cadillac, pour commencer, c'était unique, si j'avais fait cadeau à Gala. Et à l'époque, il y en avait 6. Un, le président Roosevelt, l'autre Al Capone, l'autre Kurt Kebel, l'autre Dali, les autres je ne sais pas qui, mais il y en avait 6 de cette même édition. Et les personnages ne sont pas imputrescibles, tous ils pourrissent parfaitement bien, de façon qu'on songe à les changer chaque 3 ou 4 mois. Et c'est arrivé déjà à l'exposition première où j'exposais mon taxi plus vieux, chez Wildenstein, à Paris, où vraiment ça puait tellement entre les escargots qui moulaient et les putréfactions de
naturel du mannequin,
de mannequins, Vraiment, c'était impossible à soutenir, il fallait tout renouveler.
Mais est-ce que le spectateur peut imaginer que, par exemple, c'est Dali et Gala qui sont à l'intérieur de la voiture?
Ah, il peut imaginer tout ce qu'il veut. Sa liberté totale, quand plus paradoxal soit, et contradictoire, tant mieux. C'est pour ça que, provisoirement, il n'y a pas de catalogue pour rien expliquer.
Mais par rapport au taxi plus vieux que Dali installa à l'exposition surréaliste, la Cadillac présente deux innovations. D'abord, un tronc où le public doit glisser son obole pour déclencher les jets d'eau qui arrosent l'intérieur de la voiture et les mannequins. Ensuite, une énorme statue en bronze de Fuchs installée sur le capot du moteur. C'est une représentation mamelue de la reine Esther. Au globe de ces énormes seins répond la coupole de plastique transparent qui coiffe l'ancienne scène du théâtre.
J'ai commencé le musée par le toit.
Par la coupole.
C'est ça. Que c'est toujours fait le contraire, la coupole c'est la fin. Et je voulais même qu'on apporte la coupole en hélicoptère, toute construite. Comme Fuller fait en Amérique.
C'est-à-dire
qu'il y a un hélicoptère qui arrive et il pose le toit.
Et ça s'est fait plus laborieusement.
C'est ça.
La nuit, des dizaines de projecteurs se reflètent dans la coupole, la transformant en une voûte céleste percée d'étoiles. On croirait voir la réalisation du projet de cénotaphe que Boulez au XVIIIe siècle avait imaginé pour célébrer la mémoire de Newton.
Tout ce qui m'a influencé sera là.
Et réuni là.
Hein. Réuni là. C'est une espèce d'anthologie dalinienne. Avec beaucoup de nouveaux éléments, le principal desquels, c'est les yeux de mouche, par lesquels j'ai fait des planches de plastique, qui sont exposées déjà, et qui créent des effets paralysants de troisième dimension et de changement.
Changement. Ce mot repris sans cesse résume la démarche de Salvador Dali. Il compte sur les ressources de son imagination pour empêcher son théâtre-musée de devenir, comme les autres musées, un lieu funèbre. C'est que le peintre a été frappé par la récente exposition au Centre Pompidou de Persistance de la mémoire, son célèbre tableau appelé couramment les montres molles. Protégé par une cage de verre anti-balles, l'œuvre avait perdu tout pouvoir de provocation.
C'est le musée qui représente la néganthropie par excellence. Depuis 2 ans, j'ai fait une liste de toute la néganthropie que je peux trouver n'importe où, parce que ça m'intéresse beaucoup, le fait de ne pas mourir et de l'éternité de l'âme. Eh bien, dans la microphysique, presque toutes donnent raison à la néganthropie.
La néganthropie qui hante Dali rassemble les forces de vie empêchant l'inexorable dégradation de tout système physique, comme le voudrait le deuxième principe de la thermodynamique, selon lequel au XIXe siècle, on envisageait l'épuisement inexorable et rapide du monde. Pour mettre en évidence la suprématie des forces de vie, Dali accumule les images souvenirs. Ainsi, les déguisements noirs et blancs qui pendent dans la cage d'escalier du musée rappellent le bal qui fut donné à Venise par Charles Bestegui le 3 septembre 1951.
Venise, la grande fête, justement, c'était moi que je l'avais inventé et dire à Charlie Bestegui, ça devait être, au lieu de gondole, des cercueils avec des cierges. Ce qui était merveilleux de voir tous les ducs et toute l'aristocratie, tous les gens, dans leur dernière parure, avec les vagues, maquillées, coiffées, que c'est la parure la plus définitive et la plus soignée, celle de la mort. Et alors, quand les gondoles auraient arrivé aux marches du palais de Bestegui, les gens auraient ressuscité et ils auraient commencé le bal.
Vous m'avez dit un jour que la mort, c'était la seule dignité possible.
La beauté.
Oui.
C'est-à-dire l'érotisme est toujours la laideur. Tout ce qui est laid provoque des sentiments érotiques. C'est pour ça que la beauté parfaite vous inspire plutôt un sentiment de respect. On n'a pas envie du tout de choses érotiques avec la beauté. Tandis que les morts, même le mort le plus laid, qui passe dans un cercueil, les gens enlèvent leur chapeau.
Dali continue à cultiver le paradoxe pour fortifier dialectiquement ses convictions. À propos des têtes qui ornent les murs intérieurs de son théâtre-musée, il nous a fait deux déclarations contradictoires à quelques jours d'intervalle. Pour le visiteur, leurs bouches de pierre semblent s'ouvrir pour pousser des cris d'effroi et de mort. Les bras qui les entourent sont hérissés de chair de poule figurées par des centaines de coquilles d'escargots.
Pas du tout, ils sont tout à fait dans le classicisme du baroque italien, de Beaumarchais. Au contraire, c'est des cris de vie. C'est une vie intense, frénétique, éternelle dans chaque instant. Et ce qui donnerait ou donne l'idée de mort, c'est justement les salles uniformes où ils sont entassés bureaucratiquement les tableaux. Ça, c'est la mort.
Mais 48 heures plus tard, ces mêmes têtes ne représentaient plus la vie. Au contraire.
Tout le musée est hanté par la mort. Et le plaisir sybaritique du fait miraculeux de vivre est l'idée qu'on est entouré de la mort. Si on serait assuré de tous de que ça allait durer toujours, on n'aurait pas autant de plaisir de vivre chaque instant de notre vie. Les deux grands moteurs de l'inspiration artistique de l'homme, c'est Freud qui les a définis, c'est un, la libido, et l'autre, l'angoisse de la mort.
Et donc vous pensez que le monde s'équilibre sur ces deux pôles?
Sur ces deux pôles, oui.
Cependant, Salvador Dali n'a-t-il pas pris un risque disproportionné en voulant exprimer une idée aussi dramatique dans un simple musée provincial? Henri-François Rey.
L'Espagne est un pays provincial. Quand vous lisez un journal espagnol et qui parle de Picasso, ils disent « el pintor malagueño », c'est-à-dire le peintre de Malaga. Il n'y a aucun pays au monde où on dirait Picasso, le peintre de Malaga, bon, où on dirait, non, au contraire, dire Braque, le peintre normand. Ça n'existe pas. Ou Matisse, le peintre nordique, nordiste, puisqu'on dit nordiste. Bon, en Espagne, c'est courant. On ne parle jamais de Miro sans dire le pintor Catalunya. Et Dali, le pintor de l'Empordane. Donc c'est un musée, vous avez tout à fait raison de le dire, c'est un musée provincial.
Est-ce qu'on ne peut pas être étonné, justement, par l'influence qu'une petite province comme la Catalogne a pu avoir sur l'ensemble du monde? Car l'existence d'artistes comme vous citiez Miro, puis avant ça il y avait eu Gaudi, et puis maintenant il y a Dali, enfin tout ça rayonne.
Et puis il y a eu tous les post-impressionnistes dont on parle de plus en plus, Casas, Mir, bon, qui sont de plus en plus chers, de plus en plus recherchés. Et c'est vrai, ça vient de quelque chose. À mon avis, moi j'essaye d'expliquer dans le livre que j'ai consacré à Dali, ça vient du fait que ces gens sont fous. Il y a une espèce de folie de catalane, qui est une folie baroque, et qui se traduit et qui s'exprime d'une façon extraordinaire dans les œuvres de Gaudi. Cette idée d'aller chercher dans la nature la forme ou le modèle d'une architecture est finalement une idée absolument de fou, parce que toute l'architecture depuis le début de l'architecture, c'est le contraire, c'est
lutte
inverse.
Contre la nature.
C'est la lutte contre la nature. Bon, lui, c'est la lutte avec la nature. Et Gaudi est probablement l'homme qui a le plus influencé Dali, et ça se voit, c'est évident. Les deux ont été au Cap Creus, les deux ont regardé le rocher du Cap Creus, et il reste une chose, c'est que le Cap Creus n'a pas encore été touché par le tourisme, ça reste cette espèce d'endroit privilégié, avec des rochers complètement découpés, des rochers torturés, des rochers déchiquetés. Et je crois que ça va être enfin sauvé, parce que je crois que ça va être un parc national.
Le plus important, c'est que je suis le président du patronat de Portlligat, dans lequel je dois défendre justement cette espèce de chantage qu'on fait aujourd'hui de faire des maisons à 6 étages dans la côte.
Mais là, vous défendez le monde de la réalité. Là.
Non. Je suis contre le monde de la réalité. Le monde de la réalité, c'est les...
Les promoteurs.
C'est les promoteurs de la civilisation de consommation. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça, c'est la réalité. Et nous, contre cette réalité, romantiquement, nous soutenons que les images restent paranéacritiques. C'est-à-dire, pendant que Cadaqués et Portlligat resteront intactes, il y a beaucoup plus de possibilités de rêve que quand ce sera tout uniformément construit.
et emmurés.
Avec des murs comme des maisons de souliers.
C'est une pensée très labyrinthique, c'est une pensée très difficile à piquer, à arrêter et à analyser, mais elle existe. Il a une espèce de pensée ou d'anti-pensée qui est une machine mentale tout à fait extraordinaire.
C'est le fonctionnement de cette curieuse machine mentale que nous allons tenter de comprendre dans les émissions suivantes.
Clé pour un théâtre-musée, Chair de poule inaugurale, Salvador Dali, par Daniel Lecomte et Jacqueline Archambault.
C'était le premier des 10 épisodes de la série Clé pour un théâtre-musée, diffusé le 6 novembre 1978 dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture. À suivre.
Les Nuits de France Culture.
Salvador Dali et la musique, cela faisait d'eux, paraît-il. Quant à la chanson, s'il ne l'écoutait pas, il l'entendait, comme nous allons le découvrir dans l'émission qui va suivre, à un numéro de On connaît la chanson de 1969. André Halimi y soumettait à Dali quelques extraits de chansons d'interprètes les plus divers en sollicitant son jugement. Comme on peut s'en douter, cela donnait lieu à quelques réactions pour le moins inattendues à propos de Dalida et de Sacha Distel notamment. Mais en 1969, c'était surtout l'un des grands tubes de la fin des 60s qui était resté collé au fond de l'oreille de Dali, Baby Come Back des Equals, dont il exigeait la diffusion dans cette émission quelque peu approximative mais réjouissante. On regrettera cependant la confusion faite entre Georgius et Gaston Ouvrard. On connaît la chanson avec Salvador Dali, une émission diffusée le 22 janvier 1969 sur Intervariété.
Maître, la chanson, qu'est-ce que c'est pour vous ?
C'est un moyen de crétinisation générale pour les foules. Et personnellement, je m'en sers dans ma méthode parnécritique à des fins de faire partir les gens ou de les faire revenir. Mais d'après moi, toutes les chansons sont pareilles, sont
nulles. Mauvaises.
Oui, sont
totalement nulles.
Pas nul, ils ont une certaine efficacité, mais ça dépend pas de leur qualité, ça dépend du moment où on les joue exclusivement. Par exemple, au moment où Madame Dali, que c'est l'être que j'aime le plus au monde, partait cette année pour l'Italie, on jouait dans la radio, dans la voiture, une chose qu'ils s'appellent Baby Come Back, que c'est une chose d'un groupe qui s'appelle les Equals ou les Eagles, et qu'il faut que vous finissiez l'émission en les jouant.
This is the first time until today that you have run.
Et alors, je lui ai dit la même chose, je lui ai dit « Baby, come back ». Et alors après, on a joué tout le temps, il l'entendait dans tous les endroits, parce que d'après, c'est une chose à la mode, et ça a accéléré d'une semaine son retour. Donc, à ce point de vue, rien de mieux, comme que c'est une chose qui s'agrippe à la mémoire d'une façon super gélatineuse, les gens ne peuvent pas s'en défaire. Alors, quand le divin Dali commande, il utilise aussi des chansons parmi d'autres procédés cybernétiques, comme celui que vous avez en face de cette planète lugubre qui est ici, qui ne peut pas être photographiée.
Ça, mais enfin, maître, vous avez quand même écouté des chansons, vous.
Comment ?
Vous avez quelquefois écouté des chansons.
Jamais, jamais j'écoute les chansons. Écoutez, si
vous n'avez jamais chanté, vous n'avez jamais chanté à l'école, par exemple.
Je murmure toujours, je fredonne des choses qui me passent par la tête constamment.
Mais et quoi, par exemple ? Alors, pour vous fredonner, il faut qu'elle soit arrivée. Comment elle vous arrive ?
Moi, je fais des mélanges, des choses. Un peu de...
Et pourtant, une fois, vous avez proclamé votre amitié pour Johnny Hallyday, je crois, pour un ou deux chanteurs. Vous avez dit que vous aimiez beaucoup.
Ah, ça m'étonnerait, parce que je n'ai jamais rien entendu de lui. J'aimais lui parce qu'on devait faire un happening, alors...
Ah, c'est ça, oui.
J'ai fait des éloges courtois, probablement de type mondain, mais
ah, c'est ça, type
si,
mondain.
On me, si on me met une chanson de lui, je peux pas me...
Et personne, à vos yeux, est écoutable, même pas Brassens. Brassens, enfin, on se dit, c'est un...
J'écoute tout, mais... Oui. Non, mais... j'entends tout sans écouter. C'est-à-dire, c'est la même chose que la télévision. Je regarde tous les soirs la télévision avant de m'endormir, mais toujours je la regarde avec un tout petit appareil... japonais, lequel il me permet de le mettre à l'envers, sur mon lit, donc je ne sais pas ce qu'on y voit, et en plus je mets un filtre de moiré spécial. Alors c'est impossible de savoir si c'est un parti de football, ou si c'est un discours du général, ou de n'importe quoi.
D'une chose de sport. Et quand vous écoutez la chanson, vous êtes dans quelle position ? Vous vous rasez, vous vous habillez, vous vous déshabillez ? Comment vous êtes quand la chanson vous arrive ?
La chanson m'arrive presque toujours dans les taxis.
Dans les
longs,
taxis ?
Non, pas les taxis, plutôt dans les longs voyages en voiture que je fais.
C'est ça.
Alors je mets la radio, alors c'est l'unique occasion.
Et quel est l'effet de la chanson sur vous dans la voiture ? Ça vous endort ou ça vous énerve ?
Non, ça me met dans un état pratique. Je dis, il faut qu'il me serve quand même à gagner de l'argent. Comme que ce que j'aime le plus au monde, c'est gagner de l'argent. Alors d'après ma méthode, chaque chose qui m'arrive viscéralement, je l'intègre à mon système, et la chanson, c'est parmi des millions de bits d'informations, c'est-à-dire quantité d'informations qui s'ajoutent au réseau de mon système paranoïaque pour gagner de l'argent.
Alors justement, pour gagner de l'argent, vous auriez pu faire un disque aussi, vous auriez pu chanter vous-même.
Ça m'a été proposé dernièrement, il paraît que je vais sortir en chantant dans un des groupes les plus connus au monde.
Les Beatles ?
On ne peut pas dévoiler encore parce que ce n'est pas...
C'est ça. Et là, vous accepterez ?
Étant la courtisane la plus grande de mon époque, oui. J'accepte absolument tout à condition d'être très bien payé.
C'est ça. Vous n'allez jamais au Music Hall ?
Oui. J'y vais plutôt pour me faire photographier avec des gens, pour qu'on sache que j'y vais, c'est tout.
Et les chanteurs, pour vous, ce sont quoi ? Des insectes ? Des imbéciles ?
Non, pas du tout, ni un seul imbécile.
Des bourgeois.
Non, ça va devenir probablement des courtisans, puisque comme vous savez, je suis persuadé que la monarchie va s'installer dans toute l'Europe et que nous vivons la fin de tous les partis socialistes qui sont en train de s'écrouler. Heureusement, puisque avec les partis socialistes, jamais on pourrait devenir des anges, et que nous aurons la monarchie qui se rétablit dans toute l'Europe, alors à ce moment-ci, il y aura beaucoup de troubadours et de chansonniers qui vont aider aux courtisans de vivre avec plus d'aisance.
C'est ça. Pour vous, la chanson n'est pas un art ?
C'est un art très mineur.
Très mineur.
Très, très mineur. C'est ça. Et qui doit être utilisé à toutes sortes de fins, sauf de le considérer vraiment une chose intéressante en elle-même.
Quand vous étiez très jeune homme, est-ce que vous auriez pu chanter, par exemple, faire un duo avec Picasso, par exemple ? Est-ce que ça vous aurait amusé ? Parce que vous avez fait beaucoup de fantaisie étant jeune. Est-ce que ce n'était pas une fantaisie de chanter ?
Non, parce que je parle d'un don pour chanter. Donc
vous n'avez pas de voix.
J'ai pas de voix.
Alors vous avouez une faiblesse. Ne pas avoir de voix, c'est une faiblesse.
C'est une faiblesse. Attendez que je... Le téléphone, non, j'ai dit la chose peut être enregistrée parce que c'est bonjour. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. You're gonna lose. Écoutez, il faudrait que vous qu'on m'annonce ce que c'est, parce que si je ne sais pas...
Ce sont les Beatles.
Si je ne sais pas d'avance,
Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais.
C'est les Beatles.
Les Beatles, alors c'est bon.
Très bon. Enfin,
c'est bon, ça sert. Ça.
Vous écoutez ça, hein?
Quoi?
Vous écoutez les Beatles?
Ah, beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, il y a un Beatle qui possède un objet précieux de Dali qu'on ne peut pas dire lequel c'est.
C'est ça. Combien de temps vous pouvez écouter les Beatles? Une heure, une minute ou une journée entière?
Ah non, non, non. Les Beatles, c'est une chose qu'il faut écouter au moins 5 mois de suite.
5 mois de suite.
Mais dites-moi toujours avant,
oui,
parce que
oui.
Même avec la musique de Bach, si je n'ai pas le programme, je ne sais pas s'il faut que je l'aime ou pas.
Absolument, oui.
Tout dépend de ce que c'est. C'est comme un bon foie gras pour le manger dans un bistrot.
Frère Jacques, ça.
C'est quoi?
Les frères Jacques.
Passons. Parce que ça, c'est le genre soi-disant comique, plutôt. Et alors là.
Et ça vous fait pleurer.
Ah, ça, c'est plutôt ça me déprime.
C'est ça.
Non! Non, 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 ça c'était Distel.
Distel.
Non, 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 non.
Vous le détestez?
Non, 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 j'aime beaucoup, mais ça réussit pas pour l'argent, à moi.
Mais un jour, vous avez dit qu'il était idiot, paraît-il.
Ah non, jamais j'ai prononcé des mots péjoratifs pour quelqu'un. C'est uniquement des choses qui servent pour gagner de l'argent, à moi.
Mais lui, c'est pas en gagner, alors, de l'argent.
Lui, il en gagne, mais à moi, ça pourrait me...
Bon, on l'arrête, alors. D'ailleurs, il nous a dit, allez donc vous faire bronzer. Alors, c'est un mot sans intérêt.
C'est très intéressant parce que moi, je me bronze avec de la peinture que le capitaine met sur son visage. Et il la met beaucoup trop, lui. Et alors, comme il n'a pas la peau qui se prête, tout le monde lui dit qu'est-ce qu'il fout dans son visage. Alors, grâce à lui, on découvre à moi.
Absolument.
Parce que moi, vous voyez, moi, j'ai l'air bronzé.
C'est peut-être grâce à Distel que vous êtes bronzé, non?
Non, non, jamais. Peut-être grâce à lui, je mettrai moins de bronzé maintenant. Aujourd'hui, j'en mettrai un peu.
Elle est toujours derrière.
Salvador.
Derrière.
Henri Salvador.
Elle a compris ce que monsieur le maire lui a dit. Elle ne quitte plus son.
Ça, je dois dire que c'est ça, je considère, je dois dire, le plus plat de tout. Là, de tout ce qui existe.
Alors là, ça vous déprime?
Non, je ne me déprime jamais, je suis dans le même état. Mais je dis que c'est plat sans être lugubre.
C'est nul.
Non plus, c'est plat sans être lugubre. Chaque fois que vous prononcez un mot, vous faites une gaffe.
Alors c'est inexistant.
Quoi?
Inexistant.
Non plus, c'est plat sans être lugubre.
Alors on arrête.
Il y a dans mon dictionnaire usé la définition du baiser. Ceux qui ont écrit ça font de la peine. Braves gens, je vais vous dire la mienne. Car un
Pierre
baiser,
Perret.
C'est du fuego, c'est pas de la baffe d'escargot. Et les vieux schnocks.
Où est-ce qu'il passe quelque part maintenant?
Il est passé à l'Olympia il y a 15 jours.
En ce moment, il a quelque chose?
Non, en ce moment, il passe nulle part.
Parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse.
À Perret, vous intéresse?
Ça m'intéresse au point de vue caca pipi.
Avec un steak frites, une serviette.
S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt.
Jenny Esposito.
Oui, ça c'est très sentimental.
S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt.
C'est le ridon paillasse bien connu, que c'est un des grands thèmes presque inévitables de toute chanson.
C'est bien interprété?
Oui, au point de vue ridon paillasse, c'est très bien, ça fait très paillasse et très ridon.
Dutronc.
Ça c'est mieux le voir lui parce que je trouve qu'il est assez bon. C'est-à-dire qu'il y a certains êtres qu'il gagne à être.
Je préfère le voir que l'entendre.
Non, les deux ensemble. Je trouve
ah bon?
Il va bien avec son.
Donc lui, il trouve quelques grâces à vos yeux.
Oui. mais je trouve qu'il est mieux de le voir chanter.
Sur scène, par exemple.
Tu crois que c'est du tronc ?
Mais non, ce n'est pas du tronc, ce sont nos charlots.
L'été quand je me déshabille sur les plages de Saint-Tropez, je fais rêver toutes les filles. Je plais, je n'ai pas fait de cul.
Encore du tronc.
La même
réflexion.
La même.
Et cette chanson, vous la connaissiez, l'opportuniste?
Non, mais il me plaît le titre parce que moi je suis un opportuniste. Avec la différence que moi je suis vraiment pour tout. C'est-à-dire, mais pour tout à l'égout, au service de la monarchie.
Que votre opportunisme n'a pas de limite.
Le tout à l'égout au service de la monarchie, donc il y a une limite, la monarchie.
C'est Dalida.
Jolie voix eschatologique.
Même un jour plein de. On n'entend plus. C'est Adamo.
Elle avait les yeux du destin.
Du sable.
Ressemblait-elle à mon bonheur?
Pour attraper des lions, il y avait quelqu'un qui racontait qu'on met tout le sable d'un désert sur un tamis. Après, le sable passe à travers, puisque je parle du sable d'Adamo. Et tout ce qui reste à nous, c'est les lions. C'est normal, parce qu'ils sont plus grands que le sable. Alors, de cet été, si on passe dans le tamis, ce qui reste, c'est Baby Come Back, d'un groupe, je ne sais pas lequel, ou Eagles ou les Echoes, parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont chanté, mais il y en a un qui est le bon.
This is the first time we're dealt today.
Et des années antérieures, il y a ce chanteur qui s'appelle
George
Hus, qui a fait une chose viscérale, dans laquelle il dit « je la rappe, qui me dérape, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai le tel, tel », qui est une chanson que, malgré les années, continue à être vraiment digne du conte de l'autre amant. Puisque dans ma mémoire, il reste une chose intacte.
Depuis que je suis militaire, c'était pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'ai répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias à plat plat, les mollets trop épais, les orteils pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit: oh, qu'avez-vous? Moi j'y répondis: j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas.
On dit toujours qu'il y a trop de peintres. À votre avis, est-ce qu'il y a des peintres qu'il faudrait envoyer sur scène pour faire un peu de place? Et quel peintre vous enverriez sur scène s'il fallait le faire?
Aucun, je trouve que chacun dans son casier, quand plus de peintres il y a tant mieux, quand plus de chanteurs il y a tant mieux, chez Dupont tout est bon, et il faut qu'il y ait le plus de tout que possible.
D'entendre Salvador Dali au micro de André Halimi dans On connaît la chanson. Première diffusion le 22 janvier 1969 sur Intervariété.
Hermana Marica, mañana que es fiesta, no irás tú a la amiga ni yo ir a la escuela. Pondrás el corpiño y la saya buena, cabezón labrado, toca y alba negra.
C'était un aperçu de Dali après tout, un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit, qui permettra d'entendre Dali parler, sérieusement le plus souvent, de son art et de la place où il se situait dans son histoire, et d'entendre aussi des analyses et des appréciations divergentes sur son travail. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits dès minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter à volonté sur le site et sur l'application Radio France à la page des nuits. Les nuits, le jour. L'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée. à l'écoute de France Culture.
Compraremos del que nadie lo sepa, chochos y garbanzos para la merienda. Y en la tardecica, en nuestra plazuela, jugaré yo al toro y tú a las muñecas. Con las dos hermanas Juana y Magdalena, y las dos primillas Marica y la Tuerta. Y si quiere madre dar las castañetas, podrás tanto de ello bailar en la puerta. Y al son de la dulce cantar Andrehuela, no me aprovecharon, madre, las hierbas. Y yo de papel haré una librea y una caperuza con muchas almenas. Pondré por penacho las dos plumas negras del rabo del gallo que acuya en la huerta. Y en la caña larga pondré una bandera con dos borlas blancas en sus tranzaderas. Y en mi caballito pondré una cabeza de guadamecitos y los por rienda. Yo y otros del barrio, que son más de 30, jugaremos canas junto a la plazuela. Porque Barbolilla salga y nos vea, Bárbola la hija de la panadera, la que suele darme tortas con manteca. Porque algunas veces hacemos yo y ella las bellaquerías detrás de la puerta.